La semaine passée, nous avons considéré l'importance de la famille. Ce matin, je voudrais considérer le mariage en rapport avec le dessein de Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre que notre rapport fondamental avec Dieu est celui de soumission. Il est seulement en nous soumettant à Dieu que nous trouverons la joie, la paix et la victoire qui viennent d'une vie vécue selon la volonté de Dieu. Donc, il faut que nous comprenions notre rapport avec Dieu. Il faut que nous soyons soumis à Dieu. Il faut que le Christ soit le Seigneur absolu de notre vie. Lorsque Dieu a créé l'institution du mariage, il l'a fait pour le bonheur de l'homme. À la création de l'homme, Dieu a vu que quelque chose n'était pas bon. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, le verset 18. Ainsi, nous avons la première famille sur la terre instituée par la création de la femme. Proverbe 18, le verset 22 dit, « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. » Du fait que Dieu a créé le mariage, en Hébreux 13, le verset 4, nous trouvons ce commandement. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Il y a donc au moins quatre raisons bibliques pour le mariage. Premièrement, pour la procréation, c'est-à-dire d'avoir les enfants. Deuxièmement, l'étroitesse des liens conjugaux, c'est-à-dire afin que l'homme ait une compagne. Troisièmement, pour éviter l'immoralité, c'est-à-dire pour satisfaire les besoins sexuels et émotionnels de l'homme et de la femme. 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 7. Et quatrièmement, comme exemple divin, ou comme exemple humain plutôt, du rapport que les humains doivent avoir avec Dieu, le Créateur. Éphésiens 5, les versets 21 à 33, et 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 3 à 9. Partout dans la Bible, le mariage sert comme modèle de notre rapport, de notre lien avec Dieu. Et il faut insister, je crois, que toutes les grandes œuvres de Dieu sont associées avec le mariage et la vie de famille. C'est pourquoi j'ai donné comme titre à cette étude « Le mariage et le dessein de Dieu ». Nous devons donc avoir de grands respects pour cette institution de Dieu. Ce respect doit former nos attitudes envers le mariage, la famille et, plus importante, envers Dieu. Pourquoi avoir du respect pour le mariage? Premièrement, regardons la création de la vie et de la société. Dieu a créé le genre humain comme homme et femme, Genèse 1, le verset 27. Avec le même souffle de création, Dieu a ordonné à l'homme et à la femme, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre », le verset 28. Voilà donc la création de la vie. À la création de la vie, Dieu a compris la nature de l'homme et il a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, Genèse 2, le verset 18. Ainsi, il a créé la femme, et c'était donc la création de la société. L'homme, en voyant la femme, s'est exclamé en disant, « Voici cette fois celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. » Genèse 2, le verset 23. Quelqu'un a dit que, littéralement, Adam a dit, « Oh là là, cette fois celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. » Ou en d'autres termes, « Qu'elle est belle. » Et elle est de la même nature que moi. Le mariage, donc, fait partie de la nature humaine. Parce que, rappelez-vous, Adam a vu tous les animaux que Dieu a créés, c'est lui qui leur a donné leur nom, mais il ne trouvait pas de semblable à lui-même. Donc, c'est pourquoi il était tellement content quand il a vu la femme, celle de la même nature que lui. C'est le résultat du dessein de Dieu. Et comme nous allons voir, c'est aussi le début du dessein de Dieu pour sauver l'homme de ses péchés. C'est pourquoi que lorsque Jésus parle du même sujet, il nous rappelle, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Matthieu 19, le verset 4. Deuxièmement, nous devons avoir du respect pour le mariage. Et comme je viens de mentionner, la vie de famille est au cœur du dessein de Dieu pour la rédemption de l'homme. Nous devons avoir du respect parce que la vie de famille est au cœur du dessein de Dieu pour la rédemption de l'homme. Après la chute, et lorsque le péché est devenu une partie permanente de la vie humaine, Dieu a choisi une famille, celle d'Abraham, et il a fait cette promesse. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, le verset 3. Plus tard, l'apôtre Paul identifie Jésus comme la postérité d'Abraham, par laquelle tout homme peut recevoir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Galates 3, le verset 16. Mais au commencement de ce dessein de racheter l'homme, Dieu avait choisi une famille. Troisièmement, nous devons avoir du respect pour le mariage, parce que le rapport de Dieu avec cette famille, les Hébreux, ou le peuple juif, choisi pour la rédemption de l'homme, est souvent dépeint comme un mariage. Il n'y a pas d'autre rapport qui exprime mieux l'amour, le souci, la profondeur de ce rapport entre Dieu et Israël. Dieu aime, console, soutient, dirige, discipline et vit avec son peuple comme un époux. Il demande la fidélité de sa part. Ésaïe 54, les versets 5 à 6. Il lui offre la protection et les bénédictions. Écoutez comment Ézéchiel, le prophète, décrit le mariage, de ce mariage spirituel entre Dieu et Israël. C'est en Ézéchiel chapitre 16. Nous allons lire les versets 8 et 9 et le verset 14. Ézéchiel 16, 8 et 9 et le verset 14. Je passais près de toi, je te regardais et voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un serment, je contractai une alliance avec toi, oracle du Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, et je t'ai frotté avec de l'huile. Verset 14, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, oracle du Seigneur, l'Éternel. D'abord, remarquez l'engagement personnel de Dieu avec Israël. Il s'est occupé d'elle pour la protéger et la soigner. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, et je t'ai frotté avec de l'huile. Il semble que, dans le passage, Ézéchiel décrit Israël comme une femme violée. Et c'est Dieu qui la découvre, c'est Dieu qui la protège, qui la soigne, et ainsi, il se marie avec cette femme. Mais ensuite, remarquez l'alliance que Dieu a faite avec Israël, comme les vœux que l'on fait au mariage. Je te fis un serment de contracter une alliance avec toi, et tu fus à moi. Et puis avez-vous reconnu dans la lecture les dons d'amour, les bénédictions que Dieu a données à son peuple comme le mari donne à sa femme, grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Et dans une partie que nous n'avons pas lue, Ézéchiel parle de tout ce que Dieu a fait pour Israël. Mais quatrièmement, le mariage, il faut avoir du respect pour le mariage parce que dans le Nouveau Testament, les écrivains continuent cette même métaphore du mariage pour montrer la relation de l'individu et de l'Église ensemble avec le Christ. Et il y a plusieurs passages, il y a Éphésiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 6 et Colossiens chapitre 1. Mais en Éphésiens chapitre 5, avant d'entrer dans une discussion de ce lien entre Christ et son Église, Paul nous donne un principe pour garder l'unité dans la foi. Et ceci est un principe valable aussi dans le mariage, ou pour le mariage. Cherchez avec moi Éphésiens chapitre 5 et lisez avec moi le verset 21. Là, l'apôtre Paul dit, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Paul nous parle d'une soumission mutuelle, fondée sur notre respect de Dieu. Cependant, le principe de la soumission mutuelle ne détruit pas le principe complémentaire de l'autorité, sans laquelle il n'y aura pas d'ordre. Dieu nous révèle l'ordre ou de l'autorité en 1 Timothée chapitre 2, les versets 11 à 13, et 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Et voici l'ordre que Dieu donne. Dieu, Jésus, l'homme et la femme. Dieu est suprême et Jésus lui est soumis. Jésus est établi Seigneur et l'homme lui est soumis. L'homme est établi chef de la famille et sa femme et ses enfants lui sont soumis. Mais attention, la soumission ne veut pas dire inégalité ou infériorité. Jésus est égal avec Dieu, il est divinité, mais soumis au Père, Jean 5, le verset 30. Il n'y a pas donc de honte ou de déshonneur d'être sous une autorité si Jésus, Dieu fait chair, est soumis à une autorité. La position dans l'ordre de l'autorité de Dieu n'a rien à faire avec la valeur individuelle devant Dieu. En Éphésiens chapitre 5, notre attention est rivée sur la personne de Jésus le Christ et son corps qui est l'Église. Il est à l'Église que toute personne est ajoutée en se soumettant à la volonté du Christ. On devient donc l'épouse du Seigneur. Malheureusement, dans notre monde actuel, parmi nos amis et même trop souvent parmi nos frères et sœurs en Christ, le mariage n'est plus tenu au sérieux. On dit, le mariage s'est dépassé, c'est démodé. Mais vous savez, celui qui dit cela doit logiquement dire que ce lien avec Dieu dont nous venons de parler doit aussi être dépassé et démodé. Après avoir fait cette étude, je suis plus convaincu que jamais de l'importance du mariage aux yeux de Dieu. Le mariage n'est pas seulement pour la procréation, pour donner à l'homme une aide semblable à lui pour éviter l'immoralité, en bref, pour le bonheur des hommes et des femmes. Plus important que ces trois raisons données dans la Bible, le mariage a été institué par Dieu comme modèle, comme exemple du rapport que nous devons avoir avec lui. Et voilà si je comprends bien l'importance primordiale du mariage selon Dieu. C'est pourquoi toi dédie commandement pour Israël, parler du mariage et de la famille. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. De souiller le lit conjugal, c'est-à-dire de commettre la débauche ou l'adultère, selon Hébreux chapitre 13, le verset 4, c'est de pécher pas seulement contre une autre personne et soi-même, mais comme a dit Joseph, c'est de pécher contre Dieu. Genèse 39, le verset 9. C'est pourquoi Hébreux 13, le verset 4, dit que Dieu jugera, il jugera les débauchés et les adultères. Le mariage n'est pas donc de vivre en compagnie de quelqu'un sans s'engager pour la vie. Selon Dieu, le mariage est une alliance aussi ferme, aussi formelle que celle qu'il avait traitée avec Israël, que celle entre nous et le Christ. De rompre cette alliance de mariage veut dire que logiquement, on peut rompre son alliance avec Dieu sans conséquence. De ne pas tenir au sérieux le mariage veut dire que logiquement, on n'est pas obligé de tenir comme sérieuse son alliance avec Dieu. Dieu dit en effet que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse car haïssable est la répudiation dit l'Éternel. D'autres traductions disent Dieu est le divorce. C'est Malachie 2, les versets 15 et 16. Pour montrer que les alliances sont à jamais, il y a certains écrits des prophètes, et surtout le livre du prophète Osée, où la métaphore du mariage est employée comme modèle de notre alliance avec Dieu. Bien sûr, le mariage est plus qu'une métaphore. C'est une réalité établie par Dieu, Au commencement, pour le bonheur des hommes et des femmes, aussi bien que pour le servir comme modèle du rapport que les hommes et les femmes doivent avoir avec leur Créateur. Tout ceci dit, quel est le fondement de mariage qui dure? Quelles sont les attitudes nécessaires pour un mariage sain? Je vous donne 4 réponses. Premièrement, Paul souligne l'importance d'un respect et d'un amour mutuel entre le mari et la femme. Écoutez ses premières paroles à la femme en Éphésiens chapitre 5, le verset 22. « Femme, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. » Ensuite, il dit au mari, et c'est au verset 25, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Deuxièmement, Paul exhorte les époux à oublier eux-mêmes, afin de penser d'abord à l'autre, même jusqu'à se sacrifier pour l'autre. Cette idée de se renier soi-même est le premier sens du mot « amour ». En Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 33, c'est le mot agapé, qui veut dire l'amour qui pense au bien de l'autre, même que l'autre ne retourne pas les affections. La femme qui lutte constamment pour ses droits ne comprendra jamais la beauté et la profondeur des paroles de Paul au verset 24 quand il dit « Comme l'Église se soumet au Christ ». Que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Le mari qui n'a pas de confiance en lui-même et ne pense qu'à lui-même et ses besoins doit écouter la description de l'amour que Paul donne au verset 28 à 30. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Le troisième fondement d'un mariage durable, d'un mariage qui dure, c'est l'engagement du corps et de la vie de chaque partenaire à l'autre, et au service de l'autre. En 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 4, Paul dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Le mari qui arrive à aimer sa femme avec un amour sacrificiel pose le fondement le plus important pour le mariage. Mais cette sorte d'engagement ne vient pas tout de suite. L'engagement de cette profondeur demande la plus profonde compréhension possible du partenaire dans les mains duquel on a placé sa vie. Et cette sorte de compréhension demande du temps, peut-être toute une vie. Cela veut dire qu'il faut être toujours ouvert à chercher à mieux connaître son mari ou sa femme, et cela implique une facilité et une nécessité d'une bonne compréhension, d'une bonne communication. Il faut communiquer. Quatrièmement, Paul nous montre partout en Éphésiens chapitre 5 qu'un engagement exclusif à son époux ou épouse élimine toute pensée et certainement toute pratique de l'immoralité sexuelle. Il est parce que nous avons les 3 attitudes déjà mentionnées de respect et d'amour mutuel, le reniement de soi et l'engagement entier à l'autre que Paul conclut au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mon amour pour ma femme, le don de ma vie à elle et pour elle, et l'union qui vient d'un engagement quotidien à elle, remplissent mon cœur de pensées saintes et positives et remplissent ma vie d'une sainte conduite vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi-même. L'auteur du Proverbe, chapitre 1, le verset 7, a dit ceci: « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Lorsque les hommes pensent ouvertement et honnêtement de Dieu, leurs cœurs sont impressionnés. Le mariage est le résultat direct de l'action créatrice de Dieu. Le mariage illustre bien l'amour et la vie qu'éprouve Dieu et son peuple, c'est-à-dire l'Église. Le manque de respect pour le mariage peut être changé en respect. Au monde entier, et surtout autour de nous, nous les chrétiens devons proclamer en parole et en action, par notre bon exemple, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de ce lieu, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Avez-vous remarqué ce matin que continuellement, j'associais Dieu, Jésus, l'Église et le mariage? Je ne l'ai pas fait pour faire du mariage un sacrement, car il ne l'est pas selon la parole de Dieu. Je les ai associés lorsque j'ai parlé des qualités de vie que Jésus a données à chaque personne qui lui obéit, les qualités nécessaires pour le bonheur et le succès des mariages et des familles. Et voilà les quatre qualités: l'amour du prochain, le reniement de soi-même, l'engagement entier à l'autre et la fidélité. Que nous ayons chacun ces qualités, et que nous ayons chacun un respect saint pour l'institution du mariage créée par Dieu au commencement. Et en faisant cela, nous accomplissons le dessein de Dieu. Amen.